Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Les chroniques estivales de la librairie des étudiants. Rencontre en librairie parisienne. Pour ce nouveau portrait de libraire à Paris, vous avez le choix des transports pour y aller. Du métro 10, station Émile Zola, ou du RERC, station Javel, il vous faudra marcher un petit peu jusqu'à la librairie où vous allez pouvoir vous arrêter plus d'un instant. C'est justement à la librairie l'instant que je vous donne rendez-vous aujourd'hui. L'instant d'une lecture, d'une rencontre, de jour comme de nuit. Passez l'entrée à la devanture bleu nuit et découvrez ce lieu unique. Les étagères en bois clair font des vagues sur les murs, offrant un panel de toute la littérature moderne et classique. En face de vous, un espace de littérature jeunesse vous ramène peut-être en enfance. Et poursuivant, entre les tables où reposent les livres, le fond de la librairie vous propose de quoi boire un petit rafraîchissement. C'est au milieu de cette petite librairie chaleureuse, entre livres et comptoirs, que Sandrine nous parle de littérature pendant un instant. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci de me recevoir dans votre librairie.
Bah avec plaisir.
Quelle est l'histoire de la librairie L'Instant ?
Alors la librairie L'Instant a 7 ans, bientôt 8. C'est une librairie que j'ai ouverte après avoir eu une autre vie qu'être libraire. Mmh. Avant d'être libraire, j'ai travaillé dans l'édition.
Oui.
Alors on me dit, ah oui, oui forcément. Alors, bon, oui, dans l'édition, mais l'édition médicale et scientifique. Donc, c'est quand
D'accord.
même pas tout à fait la
Assez
même chose.
Assez spécialisé.
Voilà. C'était pas la littérature. Enfin, c'était une forme de littérature. Sachant que moi, j'ai quand même toujours la culture et les livres, ça a été toujours important dans ma vie professionnelle. Mais j'ai balancé entre les ressources humaines et la culture. Donc, j'ai commencé par travailler dans l'audiovisuel. Ensuite, j'ai travaillé en ressources humaines. Et ensuite, je suis passée du côté édition. Et j'ai failli reprendre une maison d'édition et ça ne s'est pas fait. Et ça, c'était 4 ans ou 5 ans avant la librairie. J'ai eu un premier projet, on était 3, on voulait ouvrir une librairie à 3, chacun gardant son poste à mi-temps. Bon, ça a éclaté en vol. et j'ai repris mon projet et j'ai mis à peu près un an à définir les contours, à voir si c'était viable. À demander un congé création d'entreprise. Parce qu'en fait, la librairie, c'est beaucoup de rêves, mais c'est aussi beaucoup de gestion. Ce n'est pas que lire. D'ailleurs, la journée, on ne lit pas, il faut le savoir.
Oui, parce que c'est un commerce avant tout.
C'est ça, et voilà, et on n'a pas le temps. Ou alors, si on a le temps, ce n'est pas très bon signe, c'est qu'on n'a pas de clients.
Ah, ouais.
Donc, si on va lire de temps en temps un album jeunesse, une BD, mais en gros, et la journée, on a plein d'autres choses à faire que de lire, donc on lit en dehors de l'ouverture de la librairie.
Quel a été le déclic pour vous, justement, de passer de votre statut dans une maison d'édition à libraire ?
En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé, à part ma première expérience dans le cinéma, j'ai beaucoup travaillé dans des très grosses entreprises. Et j'en avais un petit peu marre de l'ambiance, des PowerPoints, du reporting, des calls en anglais, voilà, de tout ce monde professionnel. Mmh. Et donc ça coïncidait avec cette idée de librairie. Je me suis bien vue être à mon compte, créer ma propre entreprise en fait. Donc au moment où j'ai commencé à étudier, je me suis dit ça se trouve ça ne se fera pas parce que je voulais quand même. Alors je savais que j'allais un peu en rabattre côté salaire, mais je voulais quand même que ça soit rémunérateur. J'étais pas sûre à ce moment-là. Et c'est la première question que j'ai posée quand j'ai pris conseil, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des libraires, avec l'organisme où je me suis formée, qui s'appelle Book Conseil. Et j'ai déjà dit, mais est-ce que quand on est libraire, on peut se payer ? Moi, j'avais même l'idée que c'était même difficile de se payer.
Oui.
Donc, on m'a dit que si, et que d'ailleurs, c'était quand même assez souhaitable, parce qu'on ne gère pas de la même manière son entreprise quand on n'a rien à faire de ce qu'on gagne et quand il faut assurer une rentabilité. Et donc, après, tous les signaux étaient au vert. Je me suis dit, allez, alors, il a fallu trouver le local, le positionnement, le type de librairie, le nom, choisir l'assortiment. Au début, je travaillais toute seule. J'ai travaillé avec des stagiaires parce que je pouvais pas. Au début, je me suis pas payée parce que j'ai touché le chômage pendant au début. Et ensuite, j'ai travaillé avec des stagiaires, pas tout le temps, mais aux périodes les plus difficiles. Avec aussi, on a un système qui est très, très pratique à Paris. Je crois que ça existe à Paris, région parisienne, je ne sais pas si ça existe encore ailleurs, qui s'appelle les libraires volants, où on peut employer des libraires à la journée ou à la semaine pour des périodes de rush. Oui. Mais c'est des libraires vraiment expérimentés, donc c'est très précieux. Et au bout de 2 ans, j'ai recruté quelqu'un à mi-temps. Et au bout d'un an, j'ai pu le passer à temps complet. Et là, depuis 4 ans, j'ai quelqu'un à temps complet. Sylvestre travaille avec moi depuis 2 ans et demi. Et ouais. Avant, j'ai travaillé avec Romain, qui a rejoint la Bretagne. On se demande pourquoi.
Toujours la Bretagne. Hein. Tout le monde y revient, visiblement.
Voilà. Donc Sylvestre avec moi depuis 2 ans et demi. Et donc, on fait équipe tous les deux.
Donc cette librairie, L'Instant, ici au cœur du 15e, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Peut-être à vos yeux même, par rapport à d'autres librairies, hormis que ce soit la vôtre, bien sûr.
Ouais. En fait, j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais en faire et j'avais fait aussi une étude de marché. Donc j'ai fait travailler des étudiants de junior entreprise. Mmh. On a bâti un questionnaire ensemble et ils ont administré le questionnaire en demandant... déjà pour trouver l'endroit et puis pour demander un peu qu'est-ce que les gens attendaient d'une librairie et voir si c'était cohérent avec ce que moi je voulais faire et comment il fallait que j'ajuste. Parce que en fait, j'ai eu l'idée de cette librairie café assez rapidement. Alors, évidemment, là, ça ne se voit pas à la radio, mais donc c'est une librairie en premier, c'est-à-dire qu'on rentre dans la librairie et au fond, il y a un petit café.
Là où nous sommes.
Voilà, c'est ce que je souhaitais, c'est que ce soit clairement affiché que c'était d'abord une librairie, mais que j'avais envie de ce côté... convivial, mmh. Et j'avais aussi envie de que ce soit aménagé, décoré, pour que ce soit un lieu où on se sente bien et on a envie de passer du temps, donc passer un instant privilégié. Voilà.
D'où le nom
de la librairie. Voilà, un lieu un peu hors du temps où on est en compagnie de tous ces auteurs, tous ces livres, et donc c'est cette ambiance que j'ai voulu créer. Et c'est vrai que le côté café apporte aussi un petit plus. Il y a des gens qui ont sympathisé ici, il y a des discussions vraiment sur le livre, souvent, pas sur d'autres choses, mais vraiment beaucoup sur le livre. C'est quand même souvent des gens passionnés de livres. Et c'est aussi un espace qui nous sert pour faire des rencontres littéraires. C'est aussi un espace où il y a des expositions artistiques. Donc en ce moment, il y a un photographe iranien, ce qui tombe un peu tristement avec l'actualité. Ouais. Photographe iranien Morteza Niknahad qui expose là jusqu'à fin août. Et au gré des rencontres aussi avec des clients, j'ai noué des partenariats. Donc là, c'est un partenariat avec le Salon des Beaux-Arts. C'est là qu'on voit que la librairie, c'est un lieu d'échange.
Bien sûr, avant tout.
Avant tout.
Alors,
et de culture, d'échange.
Oui, surtout de culture et d'échange. Dans ces moments d'échange, je suppose qu'il va forcément avoir des conseils à viser d'un libraire ou d'une libraire sur les livres. Quels sont, vous, vos coups de cœur intemporels?
Intemporels.
Que vous aimez partager?
Et c'est que c'est une bonne question parce qu'en fait, pour avoir échangé avec des libraires de librairies des fois plus grandes, nous, c'est vrai qu'on attend beaucoup de nous des conseils. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'on lise beaucoup. Après, c'est pas une punition pour nous parce qu'on aime ça, mais on nous demande très très souvent des conseils. Donc c'est... Alors du coup, moi, il y a 3 livres dont j'avais envie de vous parler, qui seront peut-être pas des noms qui vont parler aux auditeurs.
Mais c'est bien,
à vos auditeurs.
Faut qu'on sorte des sentiers battus, voilà. Et des grands noms.
Alors je vais commencer par Anna Fonder, qui est australienne, qui a quand même, alors son livre précédent, elle avait appris l'allemand pour écrire un livre qui se passait en Allemagne.
Ah oui, quand même.
elle parle français aussi, enfin voilà, c'est assez incroyable. Ça s'appelle L'invisible Madame Orwell, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et elle raconte la vie d'une des Madame Orwell, hein, parce qu'il y a eu plusieurs Madame Orwell. Elle a passé une dizaine d'années avec son mari, et on voit le rôle qu'elle a eu dans l'élaboration de l'écriture de son mari et comment elle l'a, au-delà de soutenir, enfin vraiment été presque co-créatrice de ce qu'elle a fait, alors que c'est quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Eileen O'Shaughnessy. comment évidemment elle fait bouillir la marmite, comment elle s'occupe de lui quand il est malade, parce qu'il est un peu fragile comme garçon, elle est plus forte. Et on comprend aussi en creux comment il a élaboré ses livres, elle l'accompagne en Espagne. Donc à la fois on apprend sur elle, sur ce rapport homme-femme qui à cette époque-là était peut-être un peu pas à l'avantage des femmes, mais c'est toujours un peu le cas. Mais on voit vraiment son rôle dans l'œuvre d'Orwell. À la fin, il doit y avoir 50 pages de bibliographie, donc c'est extra. Ah oui, c'est romancé, complet. Donc c'est très agréable à lire, mais surtout, c'est très, très documenté. Donc on rentre à la fois dans l'œuvre d'Orwell, dans la vie de cette femme. C'est une vie assez touchante. Je dévoile pas, je laisserai au lecteur le plaisir de le découvrir. Et voilà, vraiment un très, très bon livre qui est sorti à la rentrée dernière, là, au mois d'août dernier. Ensuite,
un coup de cœur en chasse un autre chez les libraires.
Voilà. Là, je vous emmène en URSS dans les années 20, 1920, avec Gouzel Yakina, qui est une autrice russe contemporaine, mais qui a le même souffle que les grands auteurs russes classiques, comme Dostoïevski, par exemple.
Ah oui.
Et elle a trois livres qui ont été traduits jusqu'à présent. Et elle est entre des années 20 à 30, après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Et elle prend des épisodes réels de l'histoire. Et elle va ensuite nous raconter ça sous forme de roman avec un souffle épique vraiment très fort. Et donc là qu'on voit pour Samarcande, qui est paru chez Édition Noir sur Blanc, il est en poche là chez Libretto. Elle nous raconte comment un officier de l'armée rouge est chargé de convoyer 500 orphelins victimes de la famine dans un lieu plus propice, donc à Samarcande, dans un train avec une locomotive à charbon. Et lui, il faut qu'il trouve tout, la nourriture, le charbon, qu'il y ait des habits pour les orphelins. Et il va se battre pour tous les sauver. C'est vraiment... ça fait quand même pas loin de 600 pages, mais alors...
Presque un roman qui est loin de tout,
jamais vous
tout ce qu'on peut entendre sur justement l'URSS, qui est beaucoup
alors,
plus dur.
Évidemment, c'est pas la gloire des soviétiques, mais c'est pas vraiment le but. Enfin, elles disent ce qu'il y avait de bien et de pas bien, mais c'est surtout ce qui on apprend des choses, mais on est porté par l'écriture, et ça c'est très agréable. Vous savez, ces livres qu'on, quand on va se coucher le soir et qu'on a qu'une envie, c'est de le retrouver. Celui-là, il en fait partie.
D'accord, je vois le genre.
Autre coup de cœur, soit qui est un peu particulier, donc
attendez. Oui. Là, je permets de vous couper. Il y a un bordereau rouge, prix de l'instant 2021. Est-ce que vous auriez oublié de me mentionner que vous avez créé un prix littéraire ?
Ça sera, c'est l'occasion de vous en parler.
Ah, parlez-nous d'abord de ce prix littéraire avant de faire ce coup de cœur.
En 2021, j'ai créé avec Guillaume Périlloux, qui est... à l'époque, il était journaliste culture. Maintenant, il est auteur. Il a déjà écrit deux livres. Et il était parrain de la librairie et il m'a dit: Sandrine, on va créer un prix littéraire et on va l'appeler pas prix de la librairie l'instant, mais prix de l'instant pour lui donner une portée encore plus universelle. Je dis bah oui, très très bon. Au début, je voulais pas parce que j'étais jeune libraire, je me sentais pas très légitime, Et puis j'ai créé la librairie en 2017, donc c'était en 2021, j'avais un peu plus de bouteilles. Et donc on a constitué un jury de clients de la librairie, d'auteurs, d'éditeurs, de journalistes, et on se réunit chaque rentrée littéraire. Chacun arrive avec ses coups de cœur, gros gros coups de cœur que les autres ne connaissent pas forcément. À la fin de la soirée, sur une quarantaine de livres, on en retient 8. Ensuite, on lit tous les 8 livres, on réduit la liste à 4, et ensuite on propose à nos clients de voter. Donc c'est vraiment un vote très démocratique.
Ah oui. C'est même au-delà du prix du libraire, c'est le prix des lecteurs de la librairie de l'instant.
C'est pas que, que les libraires.
Ah oui.
Voilà. On exclut tous les livres qui ont eu des grands prix littéraires.
D'accord.
Tous les auteurs trop connus, on n'est jamais trop connus, mais très connus.
Non, mais ce que vous voulez, c'est peut-être plutôt des auteurs de niche, ou du moins...
L'idée, alors on n'a pas... Alors là, vous voyez pas les autres, mais ça, on prend aussi des livres de maisons d'édition. On pourrait prendre des livres de chez Grasset ou de chez Gallimard.
Oui,
on n'exclut aucune maison. En revanche, on exclut les noms trop connus parce que le prix de l'instant va pas leur apporter grand chose.
Oui, bien sûr.
Voilà. Le premier prix, et qui a vraiment vraiment fait l'unanimité, c'est un livre de Mika Biermann qui s'appelle Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot. Mika Biermann, il est guide conférencier à Marseille, donc passionné évidemment de peinture. Il nous emmène avec Berthe Morisot à un moment où elle, elle s'échappe à la campagne avec son chevalet. On imagine tout à fait les peintres à l'époque qui prennent leur chevalet, qui vont peindre la nature. Et donc, on va passer trois nuits avec elle, avec son mari, avec les gens du village qu'elle rencontre. Et ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'en fait, son écriture, on dirait un peu qu'il met des petites touches sur un tableau. On le voit en train d'écrire. C'est bourré de... C'est très sensoriel. C'est très, très coloré, très chatoyant, assez sensuel aussi. Et c'est un livre qu'on a. C'est un tout petit livre. Hein, il fait 120 pages. 100 pages. Et qui est vraiment...
Mais d'une grande efficacité.
Ouais, d'une grande poésie. Ça vous met dans une bulle un peu.
D'accord.
Voilà.
Donc on rejoint un peu aussi l'idée de Gouzeliakina.
Oui.
On n'arrive pas à le lâcher.
Ouais, bah les trois. Hein, alors c'est vrai que sur Madame Orwell, on est sur quelque chose de plus documenté. Il y a un côté un petit peu plus essai.
Oui.
Donc voilà, ça va être, la lecture va être peut-être moins... Il y a moins d'envolée sur la lecture. Mais c'est, les trois sont vraiment très très bien.
Donc ça, ce sont les trois coups de cœur... des libraires de l'instant.
Ouais.
Moi, j'ai un peu envie de regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines,
ouais.
Voire même en ce moment, parce que Paris est en effervescence avec l'arrivée, les présentations des auteurs de la rentrée littéraire prochaine.
Je vois que vous êtes au courant.
Ah ben, il faut toujours se tenir un peu au courant. Est-ce que vous avez déjà peut-être repéré, alors je sais que ce sont du coup pas ces grands noms qui auront le prix de l'instant, mais c'est pas très grave,
ouais.
Encore heureux, mais est-ce qu'il y a peut-être déjà des romans que vous attendez de pied ferme?
Oui, je peux vous citer le nouveau Maria Pourchet.
Mm-hmm.
Ça vous parle,
ouais.
Peut-être, ouais. Qui avait écrit Feu notamment, que j'avais beaucoup aimé. Et là, donc, elle sort un roman chez Stock qui s'appelle Tressaillir, l'histoire d'une femme qui quitte son conjoint. Et ils ont une petite fille et ça va nous raconter qu'est-ce qui va se passer après pour elle. Donc, on retrouve à la fois son écriture assez particulière, un peu heurtée, assez intérieure et très prenante. J'ai commencé à le lire et. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais vous parler aussi du nouveau livre d'Anthony Passeron, chez Grasset. Anthony Passeron, il avait écrit Les Enfants Endormis, qui lui aussi aurait mérité que je le mette dans ma liste tout à l'heure. Les Enfants Endormis, c'est un livre qui est paru il y a 3 ans, où il racontait l'épidémie de sida, en fait. En fait, qu'à travers la vie de sa famille, qui a été heurtée de plein fouet par le sida, il faisait un chapitre où il faisait alterner l'histoire de l'épidémie, du virus, et l'impact sur sa famille. Un roman très très fort. Et là, en fait, il revient sur son enfance. Cette fois, il va nous parler de ses parents, de son père. Et il fait ça à travers lui, il était passionné de jeux vidéo. Donc, il nous replonge un peu dans l'histoire des jeux vidéo. Il fait en parallèle l'histoire de son enfance, son adolescence, mais aussi par le prisme de ce média qui était très important pour lui. Et c'est un livre que, voilà, pareil, j'ai commencé, ça a l'air très bien.
Bon, on verra la suite à la rentrée.
Ouais.
D'ici là, on a le temps de venir chercher dans votre librairie vos coups de cœur et puis échanger avec vous.
Voilà.
Merci beaucoup, Sandrine.
Bah, de rien.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour découvrir une nouvelle librairie parisienne. D'ici là, vous pouvez retrouver la capsule auditive de notre entretien du jour avec Sandrine, ainsi que ses coups de cœur littéraires en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer un bel été et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.